Le handicap aujourd'hui. Une émission proposée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième émission Le Handicap aujourd'hui qui a pour thème ce mois-ci école et handicap et plus largement enfance et handicap. Une émission en trois parties. Dans la première partie, nous aborderons plus spécifiquement la problématique scolaire, quelle inclusion, quel accompagnement au quotidien des élèves en situation de handicap avec différents témoignages. En seconde partie, nous parlerons du projet des étudiants de l'IUT de Lens. Il s'agit du projet Cyberenfant qui a pour but d'égayer en quelque sorte le quotidien des enfants hospitalisés. Et puis enfin, en dernière partie, nous aborderons différentes initiatives, notamment la création dans notre région d'une entreprise en bâtiment toute récente, mais aussi des idées de cadeaux de Noël pour les enfants en situation de handicap moteur et ou mental avec une société montpelliéraine. Avec moi pour animer cette émission, Julien Maille de Radio Plus.
Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Et autour de la table pour répondre à nos questions, Valérie Degros, bonjour.
Bonjour.
Alors n'hésitez pas à bien vous rapprocher du micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Vous êtes la maman de Ryan, qui est élève scolarisé en BTS PME PMI au lycée Voltaire de Vingles.
Oui.
Votre fils est atteint d'une déficience visuelle et vous rencontrez un certain nombre de difficultés avec cet établissement. Vous nous les évoquerez dans quelques minutes.
Fali, bonjour. Vous êtes chanteuse. Vous êtes atteinte d'un handicap suite à un accident de voiture. Handicap qui vous crée notamment une perte d'équilibre et troubles de la mémoire. Vous avez également une expérience en tant qu'AESH, hein, donc auxiliaire de vie hein, scolaire, hein, c'est l'ancien nom, et à vos côtés, juste en face de vous, merci en tous les cas d'être avec nous.
Oui, bonjour à tous.
Serge Kaliski, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être présent. Vous êtes le coordinateur autisme au sein du réseau Bulle France, et vous êtes également ancien vice-président de cette association.
Et puis également avec nous Kevin Demoulin et Léa Voisin. Bonjour à tous les deux. Vous portez donc le projet Cyberenfant. Nous aurons également par téléphone un témoignage, celui d'Océane, qui est étudiante en situation de handicap. Nous évoquerons avec elle son parcours scolaire et d'ici quelques minutes devrait nous rejoindre Jacques Kleinpeter, président de l'association Soliand.
Le handicap aujourd'hui.
Alors je reviens vers vous, hein, Valérie Degros, merci encore une fois d'être avec nous sur Radio Plus. Vous êtes donc la maman hein, de Ryan, qui je le rappelle a un handicap visuel, qui a obtenu son bac avec mention assez bien et qui entame sa seconde année hein, de BTS PME PMI gestion des entreprises. Et vous êtes actuellement en conflit, on peut le dire, hein, avec le lycée Voltaire de Vingles depuis un petit moment maintenant. Conflit qui, jusqu'ici, n'a pas réellement trouvé d'issue. Vous avez d'ailleurs dû prendre un avocat pour vous défendre. Alors, un premier problème s'était posé précédemment avec l'ancienne proviseur. Hein, vous m'aviez dit, quand je vous avais rencontré il y a quelques jours, que le lycée avait refusé hein, d'accueillir Ryan parce qu'il manquait une chaise pour accueillir son auxiliaire de vie scolaire. On a un peu de mal à y croire, c'est vraiment ce que lycée vous avez déclaré à l'époque?
Oui, et j'avais pris l'avocat. En fait, c'est pas du lycée Voltaire, ça a commencé dès son entrée au collège.
D'accord.
Ah oui. Tout le temps qu'il a été en primaire, j'ai eu des gens extraordinaires, parce qu'il n'est pas né malvoyant. La maladie est apparue, il y avait 8 ans. Donc ça nous est tombé dessus. Bon, il était scolarisé, il a redoublé. J'ai eu aussi des... Enfin, là, on était bien. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent une fois qu'il serait rentré au collège et au lycée. Et plus on avance, et malheureusement, on ne veut pas intégrer un enfant en situation de handicap. Ils n'ont pas le temps pour ça. C'est souvent ce qu'on nous répond. L'enfant n'a pas sa place dans un système dit normal.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au collège?
Au collège, dès son entrée en 6e, mon fils n'avait pas d'AVS. On n'avait rien parce que en primaire, j'ai eu des enseignants extraordinaires avec des qu'ils avaient des classes de 30. Hein, donc ils auraient pu. On m'a jamais parlé de tout ça et j'ai jamais cherché parce que moi je pensais que ça allait pouvoir continuer dans ce sens avec des gens qui allaient être là pour faire une photocopie. Ça ne demandait pas non plus un aménagement. Mon fils apparaît malvoyant. Une fois qu'il a ses repères, il n'y a pas de souci. Donc, dès la rentrée au collège, j'ai été convoquée. Donc, on m'avait fait croire que je devais rencontrer le proviseur du moment. Et quand je suis arrivée, ben, il y avait une grande salle avec des médecins scolaires, assistantes sociales. Et puis on m'a dit, mais madame, il faut demander une AVS, il faut demander... J'ai dit, ben non, mon fils ne voulait pas, il comprenait pas. Parce que par rapport aux élèves dans la classe, enfin voilà, il fallait aussi le comprendre. Et il y a le médecin scolaire qui m'a dit, mais madame, mais faites le dossier et vous allez toucher une allocation. Je lui ai répondu, mais mon fils, c'est pas numéro d'allocataire, madame. C'est... Donc déjà là, on attaque les familles qui ont des enfants en situation de handicap en disant, ah bah oui, mais vous allez être riche, vous comprenez, vous allez avoir 120 euros. C'est une fortune pour nous, des...
Vous allez être riche, entre guillemets. Hein.
Bah oui, entre guillemets. Moi, je l'ai pris comme ça.
Oui.
J'ai dit, mon fils, c'est pas un numéro d'allocataire, c'est pas mon compte en banque. C'est... Voilà, moi, j'étais pas là. Donc, bon. Après bien des batailles, j'ai dû céder. Hein. Donc, il y a eu une AVS. Enfin, il y a eu une demande de fait auprès de la MDPH, parce que c'est un autre combat. Hein. C'est pas tout simple. Hein. On vous dit pas, bon, bah voilà, on va mettre quelqu'un. Donc, il y a eu l'intervention de l'AVS. Mais en fait, la MDPH vous donne une décision et c'est à temps partiel. Il n'y a pas de nombre d'heures. Donc après, ben on se rend compte quand on a la décision, ben on a 6 heures.
D'accord.
Oui, il y a un certain nombre d'accordés pour l'AVS et l'enfant, sachant que l'AVS est là pour l'enfant, mais elle est aussi là pour l'instituteur ou l'institutrice.
D'accord.
C'est une aide.
Donc. Merci, Pauline. Oui. Il faut, donc, je me suis battue parce que on m'avait donné 6 heures. Alors, entre les professeurs qui, ils ont pas besoin de l'ABS parce qu'ils vont prendre, ils sont prêts. Ils vont aider à aller faire la photocopie, à mettre en place un petit aménagement au niveau de l'éclairage. Et puis, il y en a, ils veulent pas du tout. Et là, donc, vous avez que 6 heures. Vous pouvez pas, dans toutes les matières, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc, on doit choisir dans les matières principales. Donc, moi, j'avais mis français, mathématiques, enfin pour dire qu'ils gardent au minimum les langues.
Le socle principal.
Le socle principal
de connaissances.
Voilà, art plastique, tout ça. Bon, je vais peut-être en fâcher, mais bon, pour moi, c'était pas l'important, quoi. De toute façon, ça lui servirait pas. Et puis, bon, c'est une bataille, hein, parce que donc à une période, j'ai dû reprendre un avocat parce que j'avais que 6 heures. Et il en fallait plus.
Donc ça, c'était
au collège.
Au collège, déjà, d'accord.
Donc déjà au collège. Donc, on a... Toutes les années collège, on les a fait entre avocat, la presse. Pour différentes raisons, discrimination. Parce qu'il y a de la discrimination, hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Et c'est peut-être plus violent, parce qu'on parle toujours du harcèlement, entre parenthèses, scolaire, entre les élèves. Mais le harcèlement entre personnes adultes envers les élèves, il existe.
On y reviendra d'ailleurs, oui. à cette question.
Voilà.
Alors je reviens à la situation, entre guillemets, actuelle, avec le lycée Voltaire. Donc, il manque une chaise, effectivement, pour accueillir son auxiliaire de vie scolaire.
Oui.
Alors ça a duré combien de temps, cette histoire?
Ça a duré que, en fait, le collège, mon fils avait son brevet des collèges, machin, il allait partir, donc eux, ils étaient contents. On allait se débarrasser de... Surtout la maman. Et donc, le proviseur du collège me dit, mais madame, prenez contact avec le lycée et allez parler avec la proviseur. Donc, je demande un entretien, on était en juin, j'emmène mon fils et elle me reçoit et elle me dit, ah oui, mais madame, je connais. Et de toute façon, je ne peux pas pousser les murs. Moi, j'ai pas 36 chaises, j'en ai 35. Et ça sera comme ça, je fais ce que je veux dans mon établissement. Donc, j'ai repris contact avec un avocat. À la rentrée, on a trouvé une chaise pour pouvoir asseoir l'AVS. Parce qu'il y avait la sienne, mais en fait, eux, comme ils en avaient, ils ne trouvaient pas utile de prendre son AVS. Mais en même temps, il y avait à un moment un président de la République qui avait parlé, qui avait dit que le mieux pour l'élève, ça soit que son AVS le suive le plus...
Du début à la fin.
Du
de
début
ça.
À la fin, de... voilà.
Oui, oui.
Donc j'ai joué sur... J'ai joué sur ça aussi. Hein. J'ai dit, il faut être cohérent dans les propos. À ce moment-là, quand ça vient de là-haut, donc on a trouvé la chaise. Donc il a fait Et puis, bah, de toute façon, après, bah, on a retrouvé le même problème. Des professeurs qui sont prêts à... Bon, bah, on va aller faire une photocopie, on va mettre les cours sur clé, on va... Parce qu'il y a un ordinateur. Bon, après, il y a un ordinateur, mais on a du mal aussi à faire comprendre que pendant 6 heures, il peut pas travailler sur son ordinateur. Ça lui demande trop d'attention. Donc il ne peut pas faire ça. Alors pour eux, l'ordinateur, bon bah ça y est, c'est youpi, on a tout trouvé. Non, non. Après j'ai eu aussi, bah il était suivi par un centre de malvoyants à Lille pour son intégration en milieu ordinaire, mais on s'est retrouvé seul aussi parce qu'il y a pas de suivi concret. Donc je me bats contre bah contre tout le monde, quoi. Et on est seul.
Alors là, on va en venir à ce qui se passe aujourd'hui et qui est un peu une répétition de ce que vous avez vécu avec votre fils l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, votre fils a eu toutes les difficultés à trouver un stage afin de valider sa première année. Il a fini par le trouver à 10 jours de la date butoir. Donc ça a été validé, on va dire, in extremis. Et la rentrée suivante, la rentrée actuelle hein, de cette année, c'est assez mal déroulé aussi. Si j'ai bien compris, hein, Valérie Degros, vous affirmez que le lycée Voltaire ne souhaitait pas retenir Ryan dans ses effectifs à la rentrée.
Non.
Expliquez-nous ça.
Bah, c'est-à-dire qu'on a trouvé le stage in extremis, quoi. Hein. Donc, par le biais de mon fils auprès de son employeur. Hein, enfin, voilà. Et donc on a trouvé ce stage et comme par hasard quand je suis allée au lycée pour récupérer la convention, ben monsieur le proviseur adjoint on avait trouvé un, donc je l'avais court-circuité et bon on n'avait plus le temps, donc ils ont signé la convention. On s'est retrouvé sans AVS sur le lieu de stage parce que ben dès janvier j'avais pris rendez-vous avec l'inspecteur de l'AESH de Vendin pour lui remonter toutes mes inquiétudes, donc fallait pas que je m'inquiète. Dans les textes de loi, c'était écrit que l'AVS pouvait l'accompagner, enfin, et puis qu'on ne laissait pas tomber un élève. De toute façon, tout. Donc on m'a éparpillé un petit peu dans des associations, dans des le Cap Emploi, alors que je savais très bien que bah, c'était pas pour les élèves, c'est pour les gens qui sont en situation de handicap et qui sont malheureusement sans emploi. Enfin, on m'a baladé comme ça, et puis bon, bah, au mois de mai, on a fini par décrocher le stage. Donc, on s'est retrouvé sans AVS, on s'est retrouvé. Enfin, ça a été un mois intense. Donc, j'ai jamais baissé les bras, j'ai tenu mon fils la tête hors de l'eau, et je lui disais, c'est pour toi, et on va se battre. Il y croyait plus. Et puis, ben, fin juin, j'ai appris que, en fait, pour sa deuxième année de BTS, c'était le lycée qui allait donner son accord, parce qu'il n'y avait rien qui les obligeait à le reprendre à la rentrée. Donc j'ai repris contact après auprès de mon avocate, je suis passée dans la presse. Donc malgré le stage, il n'y avait rien qui disait qu'en septembre, il aurait été là. Et de toute façon, ils avaient décidé de ne pas le garder. Donc j'ai repris contact avec l'avocate, je suis passée dans la presse, c'est passé le samedi. Le lundi, il y avait conseil de classe, on gardait mon fils. Bon, quelque chose de gagné encore. Et puis, bah, en septembre, bah, je savais très bien que pour cette année, il allait falloir deux stages. Et puis, bah, il fallait cette réunion. Et puis, il n'y avait rien qui bougeait du lycée. En fait, on n'avait pas de nouvelles. Donc, je voyais le temps passer, le stage qui approchait pour le mois de décembre. Et je voulais. Donc, j'ai été revoir mon avocate. Elle a pris contact auprès de la référente qui s'occupe des enfants en situation de handicap parce qu'il y a une personne qui est nommée pour cela, hein. J'ai obtenu cette réunion parce que normalement c'était qu'au 22 novembre. J'ai obtenu cette réunion au 18 octobre. Et là, donc j'ai remonté toutes mes inquiétudes et puis, donc bien sûr, bah, ils étaient pas contents parce que j'avais pris un avocat, j'étais passée dans la presse. La professeure principale m'a dit, mais de toute façon, madame, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, on s'en fout. Donc j'ai dit, je ne lâcherai pas. J'ai jamais lâché, mon fils son BTS, il le rush, donc oui, mais il doit prendre son autonomie, enfin, on est revenu sur plein de choses. Et puis, bah, de toute façon, moi, j'avais rien à dire parce que mon fils aujourd'hui a 21 ans. Donc il est majeur. Mais quand ça les arrange, mon fils est majeur. Mais quand mon fils est absent, c'est moi qui reçois les appels. Donc s'il est majeur, il est... Enfin voilà, à 21 ans, il est capable Non, non, c'est moi. Le courrier recommandé que j'ai eu ici, ça a été à mon nom et au nom de mon mari. Ça n'a pas été au nom de mon fils. Donc ça les embête. Et donc j'ai parlé du stage, hein, parce que j'ai dit, bah, on avait déjà bien galéré pour en trouver un. Et parce que les employeurs, bon, déjà c'est pas évident de trouver un stage pour un élève, mais avec en situation de handicap, c'est. Donc on m'a dit, non, non, madame, de toute façon, cette année, vous inquiétez pas, on va ouvrir. Donc allez dans des associations, allez, j'ai même dit, je peux même aller chez le boucher du coin, quoi. Oui, oui, de toute façon, le principal, c'est qu'ils trouvent un stage et qu'ils s'y sentent bien. Mmh. Alors j'ai dit, oui, mais le coefficient au niveau du BTS, en anglais, est quand même assez élevé. Ne vous inquiétez pas, ça c'était un prof principal. Mon inspecteur... a pris l'engagement de s'occuper, il sera dans le jury, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai dit, ben, tout ce que vous me dites en parole, là, je veux que ça soit acté aujourd'hui. Parce que des paroles, j'en veux plus, des paroles, j'en ai eu pendant des années.
Et ça a été acté. Alors, je continue dans l'histoire. Le dernier stage, pour chercher donc de nouveau le stage pour Ryan, hein, pour valider son BTS, ça a été aussi un énième parcours du combattant. Puisque le jour même où vous alliez valider avec le lycée le stage que vous aviez trouvé, hein, qui n'est pas dans le secteur d'activité qui est requis pour le BTS, mais qui tout de même avait été validé en amont par le lycée, on envoie votre fils pour rechercher de nouveau un stage à Douvrin.
Oui, en fait, l'entretien avec l'employeur a lieu le 13 novembre. Et puis, pas de nouvelles. Donc la convention, sa professeure disait, on sait pas, ça sera pas possible, mais il y avait rien de concret. Mais la convention ne revenait pas. Donc moi le jeudi, je suis allée moi-même au lycée déposer la convention. Donc bien sûr j'ai demandé à avoir le proviseur adjoint, mais il était pas disponible, enfin il était pas là. Donc j'ai dit, écoutez, c'est super important, il faut que je dépose cette convention. Et puis dans l'après-midi, mon fils en intercours m'envoie un message et il me dit. C'est refusé, demain, je dois aller avec ma professeure pour rechercher un stage. Il n'y a pas de stage à rechercher. Donc, j'ai dit, on en a un. Donc, non, c'était comme ça. Donc, mon fils est rentré. Et puis, parce que M. Morello, ça faisait quand même une bonne semaine qu'il devait m'appeler. J'attendais toujours son appel. Donc, j'ai rappelé le lycée. Et puis... il m'a dit clairement, non, non, madame, de toute façon, cette convention, je ne l'accepte pas, je la mets à la poubelle. Ryan doit être demain matin à 8h30 à une entreprise avec sa professeure. On a cherché, on est là pour l'aider. Et donc j'ai dit, oui, mais c'est une recherche de stage, il n'y a rien de concret. Parce qu'on sait très bien que la convention, elle peut être signée, et puis en dernière minute, le 9, le patron ne prend plus. Et le 10, il est dehors, parce que s'il n'y a pas de stage, il y a fini. Donc j'ai maintenu, j'ai dit non. Donc mon fils n'a pas été à cet entretien. Il a très mal vécu ces 15 jours. Hein. J'ai fini chez le médecin.
Oui, parce que vous m'avez expliqué qu'il était resté chez vous pendant 15 jours, hein, parce qu'il n'osait plus revenir au lycée.
En fait, quand il retourne au lycée, je peux pas l'accompagner. Il arrive un moment, mais il se retrouve face à des adultes. Alors moi, à la maison, je lui dis, si on te donne quelque chose à signer, tu le ramènes à la maison, on lit ensemble. Mais bon, une fois qu'il est face au professeur, ce que vous voulez qu'il fasse. Donc il m'a dit, de toute façon, c'est mort, maman, j'ai fini, de toute façon, j'aurai pas mon BTS, c'est plus la peine. Donc j'ai dit, non, on va se battre, on va continuer. Donc j'ai repris contact avec l'avocat. Mon fils est resté, il a repris l'école la semaine dernière. Et après avoir eu l'intervention de l'avocat auprès du lycée, hein, parce que je voulais du concret qui est plus... Et puis ça a continué. Ça a continué et ça continue. Donc aujourd'hui, tout ce que je leur demande, qu'on laisse passer le BTS à mon fils, la maladie, tout ça, c'est nous les parents... On a même été dire jusqu'à l'employeur que, parce que là aujourd'hui, l'employeur pendant 15 jours, après il fait ce qu'il veut, c'est son entreprise, je ne peux pas imposer. Donc mon fils, pour l'instant, il n'y a pas d'AVS. Parce que l'employeur a dit, je veux le juger de moi-même, mmh. dans quoi il est capable, dans quoi il ne sera pas, parce que la période de stage du mois de février, elle sera plus longue. Donc là, on aura peut-être besoin. Mais lui, l'employeur, veut la personne. Et l'a testé. Et je ne peux pas. Donc, on m'a demandé de faire un papier. Donc, je dis, pour moi, récupérer cette convention, c'était donnant-donnant, comme elle avait dit sa professeure principale. Elle a dit à mon fils, il faut que ta mère, elle ramène un papier, comme quoi que tu ne veux pas de l'AVS. Donc, j'ai repris, parce qu'on me parle toujours que mon fils doit prendre son autonomie. Un jour, j'aurai plus personne. Donc, ça, c'est le lycée qui me le dit. Hein. Donc, j'ai fait un courrier au proviseur adjoint en rappelant que, à la demande de l'employeur, pour les premiers 15 jours, parce que rien n'allait être testé au niveau de son autonomie, mais que pour la période du mois de février, ça serait à eux à voir avec l'employeur pour les aménagements possibles au sein de l'entreprise. Mais j'ai pas eu de nouvelles. Donc hier, il y a une professeure qui a été sur le lieu de l'entreprise au bout d'une semaine, parce que ça fait quand même une semaine que mon fils est en stage. Ils ont récupéré la convention. Et puis voilà, mais de toute façon, je sais très bien que janvier, ils vont revenir. Et puis, je vais devoir me battre pour reprendre les écrits, reprendre... parce qu'aujourd'hui, tout ça, pour eux, c'est caduc. Enfin voilà, faut que...
Alors, je précise que nous avons sollicité le lycée Voltaire de Vingles. L'établissement n'a pas souhaité donner suite à notre requête pour une interview. Voilà. Est-ce qu'il y a justement derrière des réactions parmi l'assistance par rapport au témoignage de Valérie Degros ? Jacques, qui vient d'arriver, on va vous donner un micro, Jacques.
Bon, j'en ai entendu un peu en route et puis maintenant, et ça bouillonne en moi. Je vais me baser sur un peu sur ce que veut dire l'humain. Hein. L'humain, ça devrait dire le cœur, la solidarité, l'aide. Et dans notre société, je vais parler comme je le ressens, l'humain n'a plus sa place, il gêne. Hein. Avec tout ce que vous venez de me dire, ce que vous subissez, madame, c'est déjà très dur pour vous. Ça a dû être très dur pour vous d'arriver déjà jusque-là. Hein. Le handicapé, il a le droit à tout, mais en réalité, il n'a le droit à rien. Hein. Il gêne. C'est ça, la société à l'heure actuelle. Et on peut aussi se référer à ce qui trône sur toutes nos mairies. Je vais enlever liberté, hein. Je vais rester sur égalité, fraternité. Ça, on devrait enlever tout ça des mairies. Parce que dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le domaine du handicap, la liberté de s'exprimer déjà aussi n'existe presque plus. Hein. Et là, ça fait 26 ans que je baigne bénévolement, madame, je sais pas si vous me connaissez, dans le milieu du handicap. On organise plein de choses, on récolte des fonds. Et on amène ce rayon de soleil qui rallume un peu la flamme, qui redonne du courage. Hein. Malheureusement, contre toutes ces structures qui sont vraiment des murailles, hein, on ne peut pas agir à votre place. Si on peut, on peut crier. Je suis vraiment frappé par tout ce que j'apprends encore aujourd'hui, par cette souffrance qu'on vous rajoute. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi pour terminer mes phrases.
Alors, bien évidemment, Valérie Degros, aujourd'hui, donc, vous avez toujours l'intention de vous battre jusqu'au bout. Là, vous attendez concrètement la validation du second stage par le lycée Voltaire.
De toute façon, déjà, on ne peut pas avoir... Parce qu'en fait, mon fils, ça les embête. Il y a de très bonnes notes.
Oui, vous m'avez dit qu'il était troisième.
Voilà.
Niveau donc, des notes.
Même s'il a...
Dans sa classe.
Voilà, il rattrape. Parce qu'il y a le côté... oui, il est malvoyant. Mais même avec moi, je vais reprendre ses cours et tout. Je vais lui lire une fois. Je vais lui poser des questions. Il me répond. C'est imprimé, quoi. Ils compensent, en fait. Donc ça les embête, parce que s'il y avait des mauvaises notes, Bon, on pourrait dire, bah oui, mais madame, vous vous rendez compte, on peut pas. Et là, il y en a des bonnes. Donc, la professeure principale m'a dit lors de cette réunion, mais madame, on n'attend pas à ce qu'il y ait 18 au BTS. Mais j'ai dit, mais madame, je lui demande pas d'avoir 18. Il y a eu 20 sur 20 en maths au bac. Si je lui demande pas d'avoir 18, je lui demande, je sais qu'il va l'avoir son BTS.
Et ce que vous voulez également, c'est qu'il n'ait pas de BTS, qu'il n'ait pas son BTS au rabais.
Voilà, tout à fait. Parce que qu'est-ce qu'on m'a fait comprendre ? L'inspecteur sera dans le jury. Bah, excusez-moi, moi ça m'interpelle. Parce que ça veut dire, en fait c'est quoi ? On fait croire que, mais il faut pas qu'on s'inquiète. Oui, monsieur l'inspecteur sera dans le jury, donc pour moi ça veut dire, bon bah monsieur l'inspecteur il est là, et puis monsieur l'inspecteur il va dire, bon bah on donne le BTS à Ariane à 10 de moyenne, et puis voilà on est tranquille. Non, mon fils a travaillé pour ça. Donc je veux qu'il y ait aussi son BTS.
Et une équité au niveau du traitement.
Voilà, comme tout élève.
Oui, c'est ce que ces enfants-là veulent. Moi tout ce qu'ils demandent c'est d'être aidés, écoutés. Et en fait, ils sont très intelligents et à force de se battre, ils sont vraiment plus forts que la plupart des autres. Voilà. Ils demandent qu'à être stimulés. Et je pense qu'en les boostant, ils sont vraiment capables de s'en sortir. Maintenant, c'est vrai que la société, elle est un peu difficile pour accepter tout ça.
Voilà, merci Valérie Degros, restez avec nous, hein. On va continuer bien sûr le débat dans quelques instants.
Le handicap aujourd'hui.
Et nous poursuivons donc avec un témoignage, celui d'Océane. Julien.
Oui, tout à fait. Et justement, on va revenir aussi un petit peu sur ce qui a été dit directement avec ces élèves qui, souhaitent être acceptés comme tous les autres et sont même parfois un peu gênés par la différence de traitement qui est faite. Alors, Océane, est une ancienne lycéenne du lycée d'Archicourt d'Hénin-Beaumont. Elle est aujourd'hui en faculté du côté de Lille 3 et on l'avait sollicitée pour témoigner justement des difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on est élève en situation de handicap, mais vous allez voir que les difficultés ne sont pas forcément là où on croit et qu'elles sont bien plus imposantes et parfois bien plus choquantes. Et à présent, nous vous proposons le témoignage d'Océane. Océane est une ancienne élève du lycée d'Archicourt, élève en situation de handicap, et elle a accepté de témoigner pour parler justement de son handicap et des difficultés que l'on peut rencontrer au sein d'un parcours scolaire. Merci beaucoup, Océane, d'avoir témoigné. Bonjour et bienvenue sur Radio Plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre handicap et de ses conséquences au quotidien, s'il vous plaît ?
Alors, mon handicap est assez compliqué à expliquer parce qu'il a commencé déjà... toute petite, j'avais à peine 6 mois et en fait il est dû à une tumeur cancéreuse qui a engendré une cellule et elle m'a vraiment paralysé la colonne vertébrale en fait. Et quand j'ai été apte à remarcher, il y a vraiment déjà les chirurgiens qui ont tout fait pour me laisser vivre parce que j'étais pas apte à vivre normalement. Mais du coup, ça a engendré énormément de séquelles, surtout des douleurs musculaires et des douleurs nerveuses, où je ne peux rien faire pour calmer ça, je suis obligée d'avoir ça à vie. Et ça a pour conséquence qu'en fait, j'ai eu une malformation des jambes, et donc je boite un peu, voire beaucoup. J'ai 1 centimètre en moins à une hanche, et je bascule vraiment énormément quand je marche. C'est assez désagréable à voir et à ressentir.
Donc beaucoup de difficultés à vous déplacer, on l'imagine, des douleurs, vous l'avez dit, qui sont très très fréquentes et très intenses aussi. Est-ce que aujourd'hui vous marchez ou est-ce que vous privilégiez le fauteuil pour vous déplacer ?
Je peux marcher, essentiellement pour les marches assez quotidiennes, normales, qui n'inclusent que quelques minutes. Je peux marcher dans ma faculté, heureusement, mais pour les longs voyages, je suis obligée de prendre un fauteuil au cas où je viendrai à tomber ou si les douleurs deviennent intenses.
Alors, on l'a dit, vous avez ce handicap quasiment depuis votre naissance. Comment s'est déroulé votre parcours scolaire ?
Mon parcours scolaire a été assez simple. Pour le début, je dirais, parce que quand on est assez jeune, on comprend pas tout ce qui se passe. Alors, forcément, ça attire le regard de beaucoup d'enfants, mais à l'époque, les enfants n'étaient pas comme ceux de cette génération et ils se contentaient juste de regarder sans rien dire. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué à arriver à la primaire et au collège parce que beaucoup, je posais des questions et souvent, les critiques commencent à dire que les gens handicapés comme moi n'étaient pas des gens normaux, n'étaient pas bienvenus dans la vie active et que des gens comme moi, j'ai reçu beaucoup de menaces comme ça. Des gens comme moi devraient plutôt mourir que d'être parmi les gens de la société.
Beaucoup de harcèlement, donc, d'après ce que vous nous dites.
Disons que c'était assez compliqué à gérer parce que j'étais harcelée, j'avais des menaces de mort et les gens profitaient en général de ma situation, du fait que je ne peux pas marcher longtemps et que je suis incapable de courir ou de faire du sport. Donc forcément, quand ils pouvaient faire du mal autour de moi, essayer de me piquer des affaires ou quoi que ce soit, c'est assez fréquent.
Ouais, donc on l'imagine, une impossibilité pour vous de pouvoir vous défendre correctement, effectivement, pour récupérer vos affaires ou tout simplement pour vous opposer physiquement face à ces menaces, face à ces intimidations. Pas mal d'élèves qui sont en situation de handicap connaissent aussi des changements d'établissement assez fréquents parce qu'il n'est pas toujours facile d'être accueilli dans un établissement scolaire. Est-ce que vous, justement, vous avez changé beaucoup d'établissements suite à votre handicap?
Alors, pas du tout. Vraiment pas du tout. Si vraiment un jour je devais être amenée à changer d'établissement, je pense que ce serait parce qu'il ne me plaît pas. Mais jusque-là, disons que j'ai eu une famille assez protectrice qui a tout fait pour que je sois acceptée dans tous les établissements que je pouvais fréquenter. Donc, étant donné que j'avais une famille assez proche et quelques amis pour me défendre, j'avais pas forcément besoin de changer d'établissement. Et surtout que les directeurs et les professeurs étaient assez stricts sur ce point-là. C'était assez facile de rester dans un établissement. Pour moi, il fallait juste me faire accepter et c'était tout.
Et à l'inverse, est-ce que vos parents, justement, ont eu des difficultés à vous faire admettre dans ces établissements? Là, on parle bien d'admission scolaire, parce qu'il n'est pas toujours facile aussi de trouver des établissements adaptés, en tout cas. Donc, est-ce que ça a été difficile pour vos parents de trouver un établissement scolaire qui puisse vous accueillir?
Assez, oui. Pour le début, ça a été simple, parce que les écoles primaires et maternelles étaient en général au rez-de-chaussée, mais à partir du collège, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches à faire pour se renseigner sur les conditions de vie en tant qu'élève, s'il y a des aides là-bas, s'il y a des ascenseurs. Et mes parents faisaient toujours en sorte de se renseigner bien si j'allais être vraiment acceptée, même aux côtés des professeurs et des aides, si j'allais pas avoir de difficultés, si un jour il venait à m'arriver quelque chose là-bas, si j'allais bien être aidée avant de pouvoir me placer dans un établissement.
Est-ce que justement vous étiez accompagnée au quotidien par des auxiliaires de vie scolaire ou des accompagnants d'élèves en situation de handicap?
Sincèrement, pour les auxiliaires, j'ai pas souvenir. Je sais juste que j'ai eu énormément d'aide de la part de beaucoup d'adultes dans les collèges et dans les lycées pour se renseigner sur mon handicap. Donc j'avais juste à remplir un questionnaire sur énormément de questions sur ce que je pouvais ressentir ou ce dont j'avais besoin pour être certaine que j'allais manquer d'absolument rien. Mais c'est vrai qu'au collège et au lycée, on faisait souvent appel à des élèves pour m'aider au cas où j'aurais un sac trop lourd à porter ou au cas où je viendrais avoir un problème physique ou avoir des douleurs vraiment intenses.
Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais justement, les professeurs, comment est-ce qu'ils ont pu faire face à cette situation? Est-ce que déjà ça a été facile pour eux? Est-ce que vous les avez sentis sensibilisés à cette question ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là?
Certains professeurs sont quand même assez sensibilisés sur le handicap, sur cette question, mais certains, on voit leur regard qu'ils n'ont jamais vu ça et d'autres ont déjà vécu la situation d'un élève handicapé. Donc on voit la facilité chez certains professeurs d'expliquer un handicap aux élèves et pourquoi il faut de l'aide pour cette personne. Et d'autres, on voit qu'ils bafouillent un petit peu pour expliquer un petit peu pourquoi on a besoin d'aide et pourquoi il faut éviter de juger. Donc ça a été plutôt facile, mais c'est vrai que pour un élève handicapé, surtout durant la jeunesse, c'est assez embarrassant d'entendre un professeur parler de ce qu'on a. On se ressent un petit peu dans une situation de pitié et on n'a pas envie de ressentir ça, justement. Mais les professeurs étaient assez ouverts d'esprit sur ce terrain, mais le plus embarrassant, je dirais que c'est parfois on a eu droit à un traitement de faveur dont même nous, on n'avait pas forcément besoin.
C'est-à-dire, vous dites que même nous, on n'avait pas forcément besoin. On l'imagine, hein, que vous avez le souhait, l'envie d'être considéré comme une élève comme les autres. Mais qu'est-ce que vous entendez par le fait qu'on n'en a pas forcément besoin ?
Disons que certains élèves, ils ont un handicap qu'ils peuvent tolérer et qui n'a pas besoin de situation particulière pour être... comment je pourrais dire ? Pour être amélioré ou autre. Parce que là, je suis dans une faculté où vraiment j'ai beaucoup de traitements de faveur de la part des professeurs et j'arrête pas de leur dire que j'en ai pas besoin. Parce que je suis juste assise sur une chaise et j'écoute mes cours et souvent, en début d'année, mes professeurs venaient me voir pour me demander si j'avais besoin d'une autre chaise ou si j'avais besoin de plus de choses. Enfin, c'est comparé aux autres élèves, j'ai pas envie d'être privilégiée et je pense que certaines personnes peuvent ressentir ça parce qu'on a juste besoin d'être compris et d'être aidé seulement en cas de besoin. Et certains professeurs essayent de faire tout pour qu'on soit tout le temps aidé, même quand c'est pas nécessaire.
Et ce comportement-là que vous citez, vous le retrouvez dans vos études actuelles en faculté, mais est-ce que vous le retrouviez aussi au collège et au lycée, par exemple ?
Au collège, c'était plus fréquent parce que forcément, on est de plus petites personnes et les professeurs nous considèrent comme des élèves assez novices et moi, comme par hasard, j'étais fragile pour eux, alors qu'il fallait juste que je sois assez... aider surtout dans les déplacements, sinon je pouvais suivre mes cours assez normalement. J'avais besoin de rien ni de personne pour suivre mes cours. Mais certains professeurs ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions pour notre bien, pour notre bien-être, pour notre sécurité. Mais souvent, quand c'est juste un handicap physique ou est-ce qu'il faut juste être nécessairement assis, c'est pas nécessaire, mais... C'est quand même assez gentil de poser des questions pour nous aider, mais c'est pas toujours évident de répondre toujours à ces mêmes questions de la part de tous les professeurs.
Alors, il y a une phrase que vous avez dite tout à l'heure qui m'a marqué concernant justement les réactions des élèves par rapport à votre handicap. Vous expliquez que les élèves que vous avez rencontrés étant beaucoup plus jeunes n'étaient pas comme ceux de la génération actuelle. Qu'est-ce qui a changé d'après vous ?
Je pense que certains élèves... actuellement, on gagne en maturité surtout et ont une ouverture d'esprit plus élargie ou peut-être un vécu qui fait qu'ils ont compris ce que je ressentais, ce que les autres ressentent. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on comprend pas forcément ce qui se passe, on sait pas pourquoi ça se passe, pourquoi il y a ça. Et quand les élèves sont assez immatures et, je vais pas dire mal éduqués, mais assez turbulents et ne respectent pas ce qu'on leur dit, ils ont tendance à dire des choses méchantes. Mais je pense qu'avec le temps, avec le vécu, on gagne en maturité et donc que ça les a permis à plus être en ouverture d'esprit et à comprendre ce que moi je pouvais ressentir juste à être regardée à cause de ce que j'ai.
Donc la génération précédente, en fait, était moins mature, hein, si je vous suis bien.
Disons que je pense que la génération actuelle, pour les collégiens et les lycéens, sont peut-être un petit peu moins matures que la génération où j'ai été. Parce que c'est vrai que je connais une amie handicapée qui vit plus que ce que j'ai vécu, qui est un peu plus jeune que moi. Et les lycéens sont vraiment, vraiment odieux avec elle. Alors que même moi, au lycée, j'avais retrouvé une maturité que j'avais pas au collège. Et c'est vrai qu'il y a des fois, le harcèlement va très loin pour certaines personnes où ils se font prendre dans un coin et se font tabasser juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont.
Aujourd'hui, vous avez quitté le lycée, vous êtes en faculté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des études que vous menez actuellement ?
Je suis en faculté d'art plastique à Tourcoing, via l'île 3. Et là-bas, la maturité est présente, c'est juste... la difficulté des études qui est assez imposante, mais là-bas, en faculté, je ne vois pas encore de jugement sur ce que je pourrais être ou pas. C'est juste qu'au départ, forcément, dans chaque nouvel établissement, on ne connaît personne et les personnes ne nous connaissent pas. Donc, quand quelqu'un peut voir ce qu'on est, c'est vrai que même s'ils disent rien, le regard est assez gênant.
Ce jugement, vous le retrouvez aussi en dehors du système scolaire, enfin dans votre vie au quotidien, pardon ?
Oui, beaucoup. Beaucoup trop même. Que ce soit dans un magasin ou juste en extérieur comme ça, sans vraiment bouger, il suffit juste que quelqu'un voit la manière dont je marche. Et soit c'est un regard de dégoût, soit c'est un regard de pitié. Et que ce soit l'un comme l'autre, c'est vraiment pas agréable. Et surtout quand c'est dans un espace fortement public, que ce soit juste marcher ou dans un fauteuil roulant, il y a certaines personnes qui peuvent vraiment pas s'empêcher de regarder avec insistance comment je suis et la manière dont je marche. Et même certaines personnes me suivent partout où je vais dans le magasin juste pour continuer de me regarder. Ça, c'est vraiment pas plaisant, c'est vraiment gênant.
Oui, on imagine effectivement que c'est assez... assez perturbant, assez gênant et en tout cas un vrai manque de respect. Alors vous avez entamé des études, vous imaginez sans doute un avenir professionnel. Est-ce que vous êtes anxieuse par rapport à ce qui vous attend dans le futur vis-à-vis de votre handicap, que ça soit en termes de recherche d'emploi, en termes de vie quotidienne ?
Alors c'est vrai qu'il y a certains emplois, parce que je ne sais pas encore ce que je pourrais pratiquer plus tard, mais c'est certain que dans les entreprises, certains patrons pourraient refuser de m'employer à cause de ce que j'ai par manque de matériel pour m'aider. Mais je pense qu'il y a quand même des entreprises qui pourraient être assez ouvertes d'esprit sur ce point-là. Surtout que même en n'étant pas handicapée, ma sœur, par exemple, n'a pas pu trouver de travail dans les endroits qu'elle voulait, mais quand un patron comprend une situation, souvent ils aident à des endroits plus faciles d'accès. Donc je pense que là-dessus, je pourrais pas forcément avoir de problème à chercher. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, les entreprises sont assez sélectives parce qu'il faut absolument que ça rentre dans leurs critères et physiquement comme mentalement, il faut arriver à faire ce que eux désirent.
Très bien, et bien merci beaucoup en tout cas Océane d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir apporté votre témoignage dans cette émission Le Handicap aujourd'hui. Merci à vous et très bonne fin de journée.
Merci, vous aussi.
Le Handicap aujourd'hui.
Alors, avant de réagir, je vous propose à présent de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière. La situation des AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, une mission essentielle en milieu scolaire, mais qui est, d'après de nombreux AESH, insuffisamment reconnue, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan des contrats et des salaires, qui sont très précaires, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ce travail ne bénéficie que d'une formation, toujours selon ces AESH, limitée. Un emploi également marqué par une très faible stabilité, avec beaucoup de turnover au sein des effectifs. Nous vous proposons donc un témoignage d'un membre du collectif AESH 5962 qui travaille au sein du collège Braque des Rousseaux de Vendin-le-Vieil. Interview réalisée par Christophe Pasquier de Radio Plus.
Je suis avec Kevin Plouvier qui est accompagnant d'élèves en situation de handicap, anciennement appelé AVS, auxiliaire de vie scolaire, dans le secteur de Lens, Hénin, Carvin. Bonjour monsieur Plouvier.
Bonjour.
Alors pouvez-vous présenter pour nos auditeurs, votre métier.
Alors, je suis accompagnant et j'interviens donc au sein d'un établissement scolaire afin de permettre aux élèves qui sont en situation de handicap d'être scolarisés en milieu ordinaire. Nous travaillons en collaboration avec l'équipe éducative et de direction, donc que ce soit les enseignants, les CPE, les chefs d'établissement ou les directrices et directeurs d'école. Nous sommes là pour pallier aux difficultés d'apprentissage des enfants et adolescents. Ces difficultés qui sont liées indéniablement au handicap, nous veillons à encourager les élèves dans leur progrès et les faire gagner en autonomie. Nous facilitons également le contact entre les élèves et leurs camarades de classe, car l'inclusion, c'est aussi sociabiliser les élèves entre eux.
Alors, ces dernières années, la fonction d'accompagnant a évolué. On a une possibilité, enfin, vous avez une possibilité d'accéder à une certaine stabilité professionnelle avec la mise en place de CDI, contrat à durée indéterminée, mais tout ça n'arrange pas toujours les choses parce que vous avez visiblement une période d'essai très longue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette période d'essai? Elle dure combien de temps?
Alors effectivement, en fait, on peut obtenir un CDI, mais cette période d'essai, comme vous le disiez, est une période d'essai d'au moins 6 ans. En fait, on a 6 contrats CDD d'un an qui est renouvelé tous les ans avant d'obtenir ce CDI. Et un CDI qui ne nous permet pas de nous sortir de la précarité, même de la pauvreté. Donc, ça reste une situation compliquée.
Oui, parce que en fait, CDI, ça ne veut pas toujours dire temps plein avec un salaire qui correspond à la tâche de travail. Alors sur les CDI, en moyenne, c'est combien de temps par semaine que vous pouvez consacrer aux élèves?
Alors nos emplois sont liés indéniablement à la présence des élèves en classe. Donc c'est en moyenne des contrats de 24 heures. Et donc du coup, même une personne qui est en CDI obtient un contrat en généralement de 24 heures, pas forcément plus.
Donc ça ne vous permet pas non plus toujours de sortir de la précarité et vous êtes obligé, enfin en tout cas peut-être certains collègues et certains membres de votre équipe de travailler à côté hein, pour rassembler, pour faire un salaire correct. On va peut-être parler un petit peu plus du métier sur les diplômes ou sur les formations. Est-ce que vous êtes suivi justement par l'éducation nationale? Est-ce qu'elle suit votre cursus afin que vous soyez plus performant?
Alors moi j'ai débuté en 2013 avec un contrat aidé. Et à l'époque, effectivement, on exigeait le bac pour entrer dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions puisqu'on remarque de plus en plus de collègues arriver en contrat aidé. Et on se demande un peu comment sont réalisés les recrutements puisqu'effectivement, on se rend bien compte que la qualité perd un peu clairement dans l'accompagnement des élèves. Et c'est une interrogation que nous avons.
Alors que vous adorez votre métier, vous n'êtes pas toujours accompagné correctement. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui de dire, bon voilà, moi je m'épanouis complètement dans mon travail pour telle et telle raison? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre statut?
Alors moi, je m'épanouis pleinement dans mon métier, c'est vrai. J'adore ce que je fais. C'est un métier que j'ai découvert par hasard, hein, clairement. C'est l'obtention du contrat aidé qui m'a permis de découvrir ce métier. Comment pallier à nos difficultés? On va dire que voilà, je pense qu'il faut vraiment revaloriser les salaires des accompagnants, puisqu'aujourd'hui, on entend sans cesse de problèmes de recrutement, mais on ne fait rien pour valoriser ces métiers-là. Donc effectivement, l'argument de nos responsables, c'est de dire qu'effectivement nous avons nos vacances scolaires. Sauf que les vacances scolaires c'est bien, mais ça nous fait pas vivre clairement. Et avoir les vacances scolaires quand on ne peut pas partir en vacances ou quand on ne peut pas faire de dépenses, ne serait-ce que dans la région, j'ai envie de dire, hein. Partir sur la côte, c'est aussi prévoir un budget pour pouvoir partir sur la côte. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas très attractif. Et je pense que valoriser le métier rendrait les recrutements plus simples.
Par rapport à votre fonction, les liens avec l'établissement scolaire, ça se passe bien en général avec la direction, l'équipe d'enseignants?
Je pense que c'est au cas par cas, évidemment. Comme dans tout corps de métier, il y a évidemment des facilités et des difficultés de relationnel. Moi, j'ai la chance d'être dans un établissement scolaire où effectivement tout est fait pour inclure les élèves et il y a vraiment une communication entre chaque personnel, que ce soit les enseignants, le CPE ou la principale du collège où j'interviens. Effectivement, on est entendu en tant qu'ABSH et on sait aussi, je pense que c'est l'expérience qui parle aussi, on sait écouter en fait les ABSH et on n'hésite pas à entendre la parole des ABSH.
Le recrutement, justement, comment ça se déroule? Bon, vous êtes issu d'un cursus sur un contrat, ensuite un bac. Et est-ce que vous pouvez être formé également sur le terrain par des formateurs ou est-ce que vous avez des sessions, des stages, des sessions d'écoute, des échanges avec des parents sur leurs demandes, sur le suivi, etc. Est-ce que tout ça, c'est bien formulé?
Alors c'est l'un des problèmes que rencontrent les AVSH. Effectivement, quand on arrive dans ces métiers, donc on a deux possibilités, c'est soit d'avoir validé un diplôme qui nous permet de travailler donc dans la petite enfance ou auprès des enfants, ou soit on passe par un contrat aidé. Et donc ce contrat aidé, on est formé, donc on obtient une formation d'adaptation à l'emploi, donc c'est une formation de 60 heures qui nous permet de visualiser et d'avoir les informations sur les différents handicaps que nous pourrions rencontrer au cours de notre carrière. Après, cette formation, elle aborde timidement chaque handicap, et évidemment, je veux dire, on ne forme personne en 60 heures et nous avons besoin de plus d'heures de formation. Car on accompagne des élèves et les handicaps évoluent, les conditions d'apprentissage évoluent aussi. Et donc forcément, on a besoin d'être mis à jour, entre guillemets, pour pouvoir continuer de manière plus professionnelle ce métier.
Alors dernière question, comment est attribué le nombre d'heures d'accompagnement par élève? Est-ce que c'est vous qui déterminez, par rapport aux difficultés de chaque élève, le nombre d'heures que vous pouvez lui consacrer, hein, ou alors est-ce que c'est l'équipe pédagogique du collège qui dit, bon voilà, tel élève c'est autant d'heures, point barre, comment ça se déroule?
Alors c'est la MDPH qui est censée attribuer un nombre d'heures aux élèves.
MDPH, c'est bien la maison départementale des personnes handicapées, et ça se trouve à Annelin d'ailleurs, hein, juste à côté d'Ouvrain, effectivement.
C'est ça. Et qui donc attribue un nombre d'heures à l'élève, et en fonction de ce nombre d'heures, l'élève a le droit à une aide humaine qui lui est autorisée. Le problème, c'est que de plus en plus, c'est ce qu'on rencontre avec notre collectif, on a de plus en plus de retours de collègues AVSH, ou de professeurs, ou de directeurs et directrices d'école, qui nous envoient des messages en ne comprenant pas pourquoi, d'un jour à l'autre, l'enfant perd une heure d'accompagnement. Pourquoi on passe d'un accompagnement individualisé, c'est-à-dire un AVSH pour un élève, à un accompagnement mutualisé, c'est-à-dire un AVSH pour plusieurs élèves. Forcément, quand on accompagne un élève, on est beaucoup plus efficace, selon moi, que lorsqu'on accompagne deux ou trois élèves à la fois. Et on rencontre de plus en plus d'AVSH mutualisés. Donc forcément, ça a un impact, je pense, sur la scolarisation des élèves.
Bien, écoutez, merci pour cet échange intéressant, Monsieur Plouvier. Peut-être une dernière chose à rajouter, si vous le souhaitez. Profitez des ondes de Radio Plus pour passer un message, en tout cas, qui sera écouté.
Mais merci à vous déjà de nous avoir invités pour pouvoir parler de notre profession, qui reste un peu dans l'ombre de l'éducation nationale et qui tend vraiment à être valorisé et mis en lumière, car vraiment, je pense que c'est un métier indispensable pour la réussite des élèves et pour une société inclusive. Mettre l'accent sur l'accompagnant, c'est aussi mettre l'accent sur les élèves en situation de handicap, et donc montrer qu'effectivement on fait tout pour pouvoir valoriser ces élèves aussi.
Très bien, merci beaucoup. Allez, merci, bon courage en tout cas.
Le handicap aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a des réactions assez rapidement par rapport à ce témoignage? On va avoir la pub dans 1 minute 30, mais vous pourrez poursuivre le débat juste après.
Ben moi, au niveau de la MDPH, en fait, sur le quota d'heures des AVS, en fait, là, j'ai mis 8 mois pour avoir une réponse de la MDPH, pour une demande d'AVS, hein, pour renouveler, voilà.
Donc un délai totalement inadapté à la situation.
Voilà, donc on m'a maintenu l'AVS malgré que mon fils n'avait plus de droit en juillet, mais de toute façon... au niveau du nombre d'heures, elle, la MDPH, elle a plus le pouvoir. Elle rend une décision et c'est au référent des AESH. Ils ont une enveloppe d'heures, en fait, à placer des AVS. Et ils sont obligés de dispatcher. Donc moi, mon fils a 18 heures. L'année dernière, il y avait 18h45. Entre deux, on lui a enlevé son AVS, on lui a enlevé des heures pour le mettre à un autre élève. Enfin, on colmate, quoi. Mais en fait, c'est l'éducation nationale qui a l'enveloppe et qui doit dispatcher. Mais malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap, et nous, les familles, on se bat de plus en plus pour que nos enfants restent dans le système ordinaire. Qu'on ne va pas, parce que moi, on m'a souvent dit, mais madame, mettez votre enfant, j'aurais très bien pu le mettre dans le centre des malvoyants à l'os. J'ai jamais voulu. Il y avait tout sur place. Non. Donc voilà, mais c'est une histoire d'enveloppe et ça vient pas de la MDPH. La MDPH, elle rend une décision.
Alors,
et après, c'est...
On va rediscuter de tout ça tout à l'heure.